vous soyez de passage ou que vous soyez quelqu'un qui fréquente l'Église de manière régulière, soyez les bienvenus aujourd'hui ici. Je pensais tout à l'heure à ce qu'on chantait, unis aux voix des anges, on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de rêver? Non, 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 non. Vous êtes bien là dans la présence de Dieu et je voudrais vous apporter les bonnes salutations du ciel. Le Seigneur nous aime. Il est de notre côté, il n'est pas notre ennemi. Il veut devenir notre ami, notre compagnon de route. Et si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment notre désir, notre souhait que pour cette année 2017, vous puissiez apprendre à connaître le Dieu souverain, le Dieu qui nous aime, le Père dans le ciel qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous réconcilier et pour nous donner une vie d'une autre planète, la vie éternelle. Alors ce matin, je voulais vous parler, et nous saluons aussi ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent sur Internet et en différé. Soyez bénis à tous, une bonne et heureuse année 2017. En tout cas aussi pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, soyez bénis. Et je vous souhaite avec mon épouse, avec tous les collaborateurs, une excellente année 2017. Je voulais vous parler ce matin de la foi persévérante. Et notamment de la persévérance. Et c'est un ingrédient qui est particulièrement nécessaire si nous voulons que les bonnes résolutions que nous avons prises puissent persister. Nous savons bien que les uns comme les autres, le fait de prendre de bonnes résolutions ne suffit pas pour changer. Que de résolutions n'avons-nous pas prises par le passé? Et nous avons vu, bien sûr, le résultat. Mais il est possible de vivre des changements. Ce n'est pas seulement les résolutions qui apportent la différence, c'est une révolution. Et ça, seul le Seigneur peut l'opérer dans notre cœur. La foi persévérante, Actes chapitre 2, verset 42, nous dit, et là on a comme un regard dans l'Église première qui vivait sa foi au quotidien, il nous est dit, Actes 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte-Cène, et dans les prières. Dans le même chapitre 2 du livre des Actes, qui est le livre de référence en matière de vie d'Église, au verset 46, il nous est dit, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La vie de l'Église s'organisait autour de grands rassemblements au temple, et puis dans les maisons, on se retrouvait par petits groupes pour partager, pour ouvrir la parole, pour chanter, pour prier, pour s'aider les uns les autres, pour échanger et se soutenir mutuellement. Et c'est ce que nous vivons aussi ici à l'Épi. Le verbe persévérer revient très fréquemment dans cette tranche. Du livre de la Bible du Nouveau Testament, mais aussi dans tout le Nouveau Testament, plus d'une trentaine de fois, il nous est dit de persévérer, il nous est parlé de persévérance. Parce que la foi, ce n'est pas l'affaire d'un moment, ce n'est pas l'affaire d'un jour, mais la foi s'accompagne de persévérance. C'est un ingrédient essentiel si nous voulons bâtir une vie chrétienne solide. On ne peut pas écarter de notre vie, cette dimension et cette notion de persévérance. L'apôtre Paul, qui était un formateur, a formé beaucoup de responsables, de leaders chrétiens, et dans sa formation auprès de Timothée, il lui dira, 1 Timothée 6, 11, recherche la foi, recherche l'amour, recherche la persévérance. Et il a été un exemple pour Timothée dans le domaine de la persévérance notamment. Et dans les messages adressés aux églises, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus apprécie tout particulièrement cette qualité de la persévérance. Et on notera par exemple au début du livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation, révélation de Jésus, Jésus-Christ. Aux Éphésiens, il écrit, Apocalypse 2, verset 2, « Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. » Verset 3, tu as de la persévérance. À l'église de Thyatire, c'est toute cette région de l'Asie mineure qui est aujourd'hui la Turquie, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Donc c'est un mot qui revient. revient très souvent et c'est un verbe qui revient très souvent. Sans persévérance, frères et sœurs, il est impossible de persister dans nos bonnes résolutions. Je viens de le dire. Il est impossible de progresser. Sans persévérance, nous n'irons pas très loin. Sans persévérance, nous ne pouvons pas grandir. Nous ne pouvons pas remporter de victoire. Sans persévérance, nous ne pouvons pas accomplir notre tâche et nous ne pouvons pas vivre ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. On était rappelé ce matin d'ouvrir grand notre cœur, nos oreilles, et puis de se dire au fond, moi j'ai ma place aussi dans la famille de Dieu. Moi j'ai ma place dans le service. Et pour continuer le parcours, il faut de la persévérance. Sans persévérance, nous nous mettons en danger. Parce que la foi s'accompagne de persévérance. Et le texte de Matthieu 10 dira, celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. C'est bien de démarrer une vie chrétienne, et c'est bien aussi de poursuivre son parcours et d'aller jusqu'au bout. Et pour cela, il faut de la persévérance. Déjà au 4e siècle, Isocrate disait, la persévérance est la compagne du vrai courage. Avez-vous besoin de courage ce matin? Alors que ce courage s'accompagne de persévérance. Au 1er siècle, Tite Livre écrit, il n'y a rien dont la patience ne vienne à bout quand elle est secondée de la persévérance. David Augustin de Bruel, au 18e siècle, écrit, la persévérance vient à bout de tout. Extraordinaire. Et puis, une femme qui s'appelle Cécile Fay, au 19e siècle, écrit ceci, la seule volonté ne suffit pas pour changer ses habitudes, il faut encore de la persévérance. Alors toute la question tourne autour de comment gagner en persévérance. Comment cela peut se faire? Bon, je n'ai pas de recette ce matin, je ne viens pas vers vous avec des méthodes, mais je sais une chose, c'est que quand on s'approche de Dieu et quand on vit avec lui une relation personnelle, de contact, de communion, d'intimité, il est le Dieu, on le dirait tout à l'heure, le Dieu de la persévérance qui communique de la persévérance. Pas de recette, mais une relation. Et la persévérance, elle nous est donnée dans cette relation forte, vraie, authentique avec le Seigneur. Donc, on vous invite à vous approcher de Dieu, on vous invite à le connaître de mieux en mieux et à vivre une vie personnelle avec lui. Alors, c'est quoi exactement la persévérance? Dans le Nouveau Testament, on trouve ce mot hypoméno, c'est du grec, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, hypoméno, qui veut dire tenir bon, tenir ferme, supporter, souffrir, endurer. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul fait l'éloge de l'amour et, à mon sens, c'est la meilleure définition qu'on puisse donner de l'amour, l'amour agapé. Cet amour qui se donne, cet amour qui pardonne, cet amour qui va plus loin que l'affection, mais c'est un amour qui se sacrifie. Et il dit, l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est le verbe persévérer, il supporte tout. Nous avions, il y a quelques années en arrière, la visite de Maurice Fay à la maison. Et pour ceux qui l'ont connu au travers de ses livres, c'est un homme de Dieu, on l'avait d'ailleurs accueilli ici. Maurice Fay est décédé, mais c'était un pasteur, un grand responsable dans le milieu francophone. Et à la maison, les enfants s'étaient un peu chamaillés. Et il s'était plaint aussi un petit peu des parents, en disant « c'est un peu difficile, la relation ». Et Maurice Fay de leur dire, vous savez les enfants, il faut apprendre à supporter, à vous supporter les uns les autres. Et c'est pareil dans la grande famille des enfants de Dieu, nous apprenons à nous supporter, non pas seulement à nous supporter, mais à nous soutenir, à nous supporter, dans le sens noble du terme, supporter. Et ça va très loin, puisque Hébreux 12, par exemple, au verset 2, dira « Jésus a souffert la croix, il a enduré, il a tenu bon, il a tenu ferme. » Et lorsqu'on pense qu'il a fait ça par amour pour nous, il est allé jusqu'au bout. Il a persévéré. d'entre nous un exemple de persévérance. Jésus a souffert la croix, méprisé la honte qui s'y attachait, qui s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a tenu ferme, il a enduré par amour. Et puis vient aussi ce mot hupomone, persévérance, qui est traduit par endurance, constance, patience, fermeté. Et c'est une qualité que l'on retrouve chez les chrétiens, mais une qualité que l'on doit retrouver aussi chez le responsable chrétien, chez un leader chrétien. L'apôtre Jean écrit à la fin de sa vie, dans le livre de l'Apocalypse, au début du livre, au chapitre 1er, il dit « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon, dans la persévérance en Jésus-Christ. » Ou encore l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 12, « Les marques de mon ministère. » Alors, je sais qu'aujourd'hui, on peut voir ici et là, entendre des récits de tel ou tel apôtre, mais l'apôtre Paul donne clairement les signes d'un véritable apôtre de Jésus-Christ. Le mot apôtre, c'est le mot envoyé, missionnaire, envoyé, quelqu'un qui remplit un ministère de la parole. Il dit, les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve. Ensuite viennent les miracles, guérisons, etc. Persévérance, ce premier signe à toute épreuve. Et des épreuves, il en a connu. Et je ne suis pas grand prophète pour vous dire que certainement, cette année, des épreuves, nous allons en connaître. Pour certains de petites, pour d'autres de plus importantes, mais c'est la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. Nous n'avons pas à faire face tout seuls à nos difficultés, mais nous sommes accompagnés. Et le chrétien n'est pas épargné. Il n'est pas meilleur que les autres. Simplement, il est accompagné. Il y a quelqu'un qui est persévérant et qui va l'accompagner pour vivre la persévérance. Les épreuves, il en a connu, l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 12, il nous dit qu'il a pris des coups, il a été emprisonné, il a été en danger de mort. 5 fois, il a été frappé, 40 coups moins 1. C'est interdit d'aller jusqu'à 40, donc d'aller jusqu'à 39 coups quand on fouette une jambe. 5 fois il a été frappé, 3 fois il a été flouté, 1 fois il a été lapidé, 3 fois il a fait naufrage. Et il dit, une fois lapidé, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Quelle persévérance pour amener l'évangile jusqu'en Europe. Jusqu'en Europe. Et nous lui devons beaucoup. Nous ne serions peut-être pas là ce matin s'il n'avait pas été persévérant. Réfléchissons à cela. Quelquefois, on se prend pour toute la chaîne. Je disais à quelqu'un cette semaine, nous ne sommes qu'un petit maillon d'une grande chaîne de témoins, de chrétiens dans l'histoire de l'Église. Nous nous prenons parfois pour toute la chaîne. Mais il y a eu des chrétiens avant nous, et il y en aura d'autres après nous. Nous ne sommes qu'un petit maillon. Et nous voulons faire ce que Dieu attend de nous dans le temps qui nous est imparti, et nous voulons le faire avec persévérance. Pour le Nouveau Testament, quelqu'un de persévérant, c'est quelqu'un qui ne dévie pas de son but, de son parcours, de sa trajectoire et de sa loyauté par rapport à la foi, malgré les grandes épreuves et les grandes souffrances. Pour le Nouveau Testament, persévérer, c'est persister dans ses résolutions, dans ses choix. On a chanté tout à l'heure, dans les choix, on est posé dans le Seigneur. Persévérer, c'est persister dans ses choix, ses intentions, ses décisions, sa conduite. Persévérer, toujours pour la Bible, c'est être constant, être ferme dans la fidélité au Seigneur et à sa volonté. L'apôtre Paul rappelle à Timothée, la lettre à Timothée, il y a 2 lettres à Timothée plus la lettre à Tite, on les appelle les lettres pastorales. Parce que dans ces lettres, l'apôtre Paul donne les conseils au pasteur Timothée et au pasteur Tite, qui étaient en charge de différentes églises, et leur donne les conseils pour conduire l'église. Et dans ces conseils qu'il donne, il dit de Timothée 3, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. » Paul n'a jamais dévié de sa heureux êtes-vous si vous ne déviez pas de votre trajectoire. Tu te regardes le soir dans le miroir et te dis, Seigneur, c'est difficile aujourd'hui, mais je te remercie parce que tu m'accompagnes. Moi, Moi, j'aimerais que nous tous, autant que nous sommes, nous puissions le soir nous regarder dans le miroir en disant oh, Seigneur, tu es avec moi, je te bénis, parce que je n'ai pas dévié de ma trajectoire, grâce à toi, et avec ton secours et avec ton aide. Autour de moi, tout s'écroule, tout le monde est déboussolé, mais grâce à toi, tu m'as donné une trajectoire, et je ne dévierai pas de cette trajectoire. C'est cela, persévérer dans la foi. Le contraire de persévérer, c'est abandonner. Je sais que parmi nous, certains sont tentés, sont découragés, sont prêts à jeter l'éponge, disant « c'est trop, je n'en peux plus, je suis fatigué. » Bonne nouvelle pour toi ce matin. Bonne nouvelle, tu n'es pas seul. Le Dieu de la persévérance et le Dieu de toute persévérance est à tes côtés. Et il le fait, ce contact avec toi, pour te renouveler dans ta persévérance. Alors, comment les premiers chrétiens ont-ils compris cette notion de persévérance? C'est intéressant aussi de jeter un regard dans l'environnement et le contexte qui était le leur. Il faut nous rappeler que les premiers chrétiens vivaient dans une société gréco-romaine où la persévérance était associée à la notion de force, à la notion de victoire et aussi à la notion d'endurance. Pour un grec ou pour un romain, la force, elle ne se mesurait pas à la taille des muscles, mais à l'endurance. Vous savez que ce sont les Grecs qui ont inventé le marathon, cette course d'endurance qui fait un peu plus de 42 km. On a des marathoniens ou des semi-marathoniens au milieu de nous. Je les salue pour leurs exploits. De temps en temps, si vous êtes sur Facebook, vous voyez des parcours invraisemblables. Je les admire. Des grands sportifs. 42 et quelques kilomètres pour le marathon. Et je peux dire que la vie chrétienne, et vous le savez aussi bien que moi, la vie chrétienne, ce n'est pas une course de vitesse à 100 mètres, mais c'est une course d'endurance. C'est une course de fond. C'est une course qui est appelée à être courue sur du long terme. Course d'endurance. Lorsque j'étais ado, j'ai eu l'occasion de participer à un camp jeune en Corse. Et je me souviendrai de cela toute ma vie. Nous étions toute une équipe et dans les activités qui nous étaient proposées, on est parti gravir une montagne, puisqu'en Corse, c'est un endroit magnifique. Vous avez la mer, vous avez la montagne, c'est magnifique. Et avec toute une équipe, on s'est chargé du sac à dos et on allait dormir à la belle étoile en haut d'une montagne. On est parti de bonne heure le matin et en partant, on a dépassé un berger. Et ce qui m'avait frappé, c'est que ce berger marchait extrêmement lentement. Je dis, à cette allure-là, il n'est pas rendu. Hein. Et nous, les jeunes, sac à dos, plein de fougue, plein d'entrain, on est partis au quart de tour. Et voilà qu'au bout d'un moment, on était fatigué. Et on s'est posé. Et au moment de se poser, on a vu ce berger qui, lui, nous a dépassés. Et vous savez quoi? Il est arrivé en haut à nous. Parce que c'était la régularité. Qui l'a amené jusqu'en haut. Je pense que c'est bien aussi qu'on puisse comprendre. C'est bien de démarrer. Il y a des chrétiens qui sont tout feu, tout flamme. C'est super. La passion du début, l'amour, le premier amour, comme l'appelle la Bible. Mais c'est bon aussi d'être posé, d'être réfléchi et de vivre la régularité. Quelquefois, on a envie d'envoyer comme un grand seau d'eau pour que les choses bougent. Mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. La différence, c'est le goutte à goutte. Chaque goutte, petit à petit, jour après jour, dans le quotidien, dans les choses très très simples. Et vous savez très bien que la vie est faite de petites choses. Et que ce sont ces petites choses qui vont faire la différence. Ne pas dévier de sa trajectoire. Continuez à vous tenir devant Dieu. Si vous avez prié, vous avez demandé quelque chose, vous n'avez pas encore obtenu de réponse. Continuez, persévérez. Et le Seigneur vous accompagnera. Alors, quand je pense à persévérance, je pense à Abraham. Dieu lui avait fait une promesse : un jour tu auras un fils, et ce sera ton héritier, Isaac. Et Abraham a attendu 25 ans pour avoir ce fils. Alors, bien sûr, il a voulu donner un petit coup de main entre-temps avec Sarah, son épouse. Mais Dieu est gentil avec Sarah, puisque à la fin, dans le Nouveau Testament, quand on parle de Sarah, on dit que c'est une femme de foi. C'est incroyable, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est toute la dimension de la grâce. On a fait des bêtises, on fait des erreurs dans notre vie, on en commet des péchés. Mais lorsque Dieu revoit notre vie, notre passé, il voit la marque de Jésus, la grâce de Jésus dans notre vie. Il a tout effacé, tout pardonné, tout est nouveau. Et finalement, il arrive à ses fins. Un peu comme le GPS. Quand vous vous perdez en cours de route, il vous ramène à l'endroit où vous devez aller. GPS, grande promesse du Seigneur, ou je ne sais pas, mettez derrière ce que vous voulez, ou grande persévérance du Seigneur. Alléluia. Vous avez peut-être demandé quelque chose à Dieu, vous n'avez pas encore la réponse. Persévérer. L'apôtre Paul lui-même a prié. Un souci aussi dans son quotidien. Il dit lui-même, il est comme un ange de Satan, il y a un démon qui était là, qui le fatiguait, qui le frappait. Et sur sa route, c'était souvent difficile. Quand il arrivait dans un endroit, il terminait toujours de la même manière et se retrouvait en prison le soir. Il n'avait jamais aucun problème d'hébergement. Toujours en prison, à cause de sa foi. Alors, au bout d'un moment, il dit, mais Seigneur, je voudrais être débarrassé, tu vois le Seigneur, Seigneur. Et puis, au bout de la troisième fois, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est une parole pour toi. La grâce de Dieu est suffisante. Parce que sa puissance s'accomplit lorsqu'on est faible, dans la faiblesse. Vous êtes peut-être dans une situation inconfortable, malgré votre bon témoignage. Des chrétiens, vous êtes critiqués par votre entourage. Soyez fidèles. Je suis en train d'accompagner un voisin dont le papa était chrétien, évangélique. Et à la maison, tous les jours, il lisait la Bible et il priait à table. Et toute la famille l'a ridiculisé et l'a méprisé. Et puis il est décédé. Et aujourd'hui, dans le contact avec le fils de ce papa, il me dit, lorsque tu viens me voir, Michel, tous les souvenirs me demandent. Mon père, qui a persévéré dans sa foi, nous, on le ridiculisait, parce que ce n'est pas l'image qu'on se faisait d'un chrétien. Alors, il a fait des boulettes, il a fait des erreurs, mais ce qui me reste, c'est tout ce qu'il me disait. C'est ses prières. C'est la parole qui nous laisse et tout ça me revient aujourd'hui. Et je vois les fruits de la persévérance de ce papa qui n'a pas dévié dans sa trajectoire. Et je suis moi-même au bénéfice dans le témoignage vis-à-vis de ce voisin, pour bénéficier de la persévérance de ce papa qui a été fidèle. Et c'est pourquoi je dis que nous sommes un petit moment. Avant nous, il y a eu des hommes et des femmes persévérants. Après nous, il y en aura d'autres. Mais nous bénéficions du soutien et de la fidélité et de la prière de ceux qui nous ont précédés. Peut-être es-tu au chômage. Peut-être c'est ton conjoint qui te fait des misères. Ça existe. Persévère. Persévère. Hébreux 10, 36 dit ceci. Vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. La persévérance est payante. Elle donne du crédit à notre témoignage. Je viens de donner un exemple. Et Daniel, un homme de l'Ancien Testament, est aussi pour moi une figure de persévérance dans sa génération. Et juste avant d'être jeté dans la fosse au lion, le roi qui avait à cœur de le sauver, mais qui ne pouvait pas le faire, puisque la loi des Mèdes et des Perses était incontournable, lorsqu'on avait signé le décret, il fallait l'appliquer. Et donc, à cause de sa foi, on l'a jeté en prison. On a jeté dans la fournaise les amis, et puis lui, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Et le roi lui dit à ce moment-là, puisse ton Dieu, c'est dans Daniel 6, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Et le roi n'a pas dormi de toute la nuit à ce moment-là. Et au petit matin, il se lève, il se réveille, et il va vers la fosse au lion. Et il dit, le roi s'approcha de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste, et il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? Il l'a délivré. Il l'a délivré. À une autre occasion, les amis de Daniel, qui ne s'étaient pas prosternés devant la grande statue qu'il avait fait ériger, lui disent, tu sais, on ne se prosternera pas devant ta statue, parce que nous, on sert le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Et puis, il peut nous délivrer, lui. Mais s'il ne nous délivre pas, ça ne changera rien, on ne se prosternera pas. Donc il peut délivrer, tout comme il peut laisser les uns ou les autres. Et ça, c'est parfois une incompréhension pour nous. Pourquoi certains sont-ils massacrés? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans le monde sont massacrés à cause de leur foi. Et d'autres restent en vie, nous ne le savons pas, mais Dieu seul le sait. Et en tout cas, ça ne change rien à la fidélité des chrétiens. Daniel 6, 26. La persévérance de Daniel a eu un impact dans tout le royaume. Et voilà ce qui est écrit ici dans Daniel 6. Le roi Darius, qui fait un écrit, écrivit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix soit avec vous en abondance. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais. La persévérance de Daniel a eu un impact sur le roi, mais au-delà, sur tout le royaume. Je crois que c'est aussi la persévérance qui va nous caractériser, qui aura du crédit et qui aura un impact sur notre entourage. Vous priez peut-être pour une situation personnelle, pour une situation familiale, professionnelle, conjugale. Ce n'est pas un moment de prière qui va tout changer. Mais c'est votre fidélité. C'est dans votre fidélité, votre constance, votre fermeté, votre patience, votre persévérance que les choses vont bouger. Et c'est ça qui fera la différence. Alors, comment vient la persévérance? Je n'ai pas de recette, mais je sais une chose, c'est quand nous approchons du Dieu de toute persévérance, il nous est communiqué. Ce n'est pas en nous-mêmes que nous trouvons la force, ni même la solution. Impossible. Nous sommes limités. C'est Dieu et Dieu seul qui peut donner la persévérance. Alors on peut être encouragé, bien sûr, à la persévérance de toutes sortes de manières, mais dans le fond, la persévérance est quelque chose qui est de l'ordre de la vie intérieure, c'est de l'ordre de la vie personnelle et de l'ordre de la relation personnelle que l'on peut avoir avec Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous amener à vivre une persévérance qui soit de l'ordre du durable, du solide. Moi, je crois au Dieu de la persévérance, frères et sœurs. Je crois au Dieu de la patience. Je crois au Dieu de la constance. Je crois à sa fidélité. Je crois à son immuabilité. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Vous connaissez ce passage certainement dans Hébreux 13, où il nous est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça va? Il ne change pas. Il ne bouge pas. Il est l'être le plus solide de l'univers. L'être le plus stable. Quand tout s'écroule autour de nous, lui ne bouge pas. Je parlais aux aînés cette semaine et je leur ai parlé du trône de Dieu. Il est sur son trône. Vous lisez le début de l'Apocalypse. Je crois qu'il y a une quarantaine de fois le mot trône dans la Bible, dans l'Apocalypse, trentaine de fois, trône. Il y a un trône dans le ciel, et ce trône n'est pas vide, ce trône est occupé par le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, le maître des temps de l'histoire. Il a de la patience. On ne serait pas là ce matin s'il n'était pas patient. Enfin, en tout cas pour moi. Heureusement, le Dieu est le Dieu de la persévérance. Il y a a beaucoup de persévérance à mon égard et sans doute aussi à votre égard, et je veux le remercier pour cela. L'apôtre Paul priait pour les chrétiens. Et c'est intéressant de regarder, de considérer ces prières. Si nous voulons prier les prières bibliques, c'est important de se pencher sur les prières de l'apôtre Paul ou de Pierre ou d'autres. Mais l'apôtre Paul priait pour les chrétiens, pour les églises qu'il avait fondées, tout comme pour celles dont il n'était pas le fondateur. Et il priait par exemple pour les Colossiens, chapitre 1er, il dit ceci, « Devenez puissants à tous égards. » En tout cas, il dit, « Je prie pour que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. » Aux Thessaloniciens, il écrit, « Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la persévérance du Christ. » Jésus est persévérant, le Père est persévérant, et le Saint-Esprit nous conduit dans un esprit de persévérance. C'est un état d'esprit de persévérance. Je m'adresse peut-être ce matin à l'un ou l'autre qui est entré ici en disant « Je suis fatigué, je n'en peux plus, je suis à bout, je n'ai plus les ressources nécessaires. » Bénis Dieu. Le Dieu de la persévérance est au milieu de nous. Il veut redonner du courage et de la persévérance. Ésaïe au chapitre 40, c'est un texte qui m'a toujours interpellé, qui m'a fait beaucoup de bien. Et lorsqu'un texte vous a fait du bien, vous pouvez le passer à votre voisin, parce que s'il vous a fait du bien à vous, sans doute qu'il va faire du bien aux autres. Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Vous savez qu'il y avait des versets comme ça dans la Bible? C'est incroyable. Tout est dans la parole. C'est une nourriture. C'est de la dynamite. Oui, l'apôtre Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile ». C'est la dynamis. Le mot dynamite vient de dynamis, grec. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, les adolescents se fatiguent et se lassent. Vous demandez pourquoi votre ado est toujours fatigué, mais la Bible le dit, c'est normal. Il est en pleine mutation. Et donc, ça amène de la fatigue. Les ados se fatiguent et se lassent. C'est écrit dans la Bible, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien, mais ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui se confient dans l'Éternel, renouvellent leur force. Écoutez bien, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Extraordinaire. Ça, c'est un bon verset pour cette année 2017. On va marcher, on ne va pas se fatiguer, on va même courir et ne pas se fatiguer. On va y aller. On va tout donner. Et on va servir le Seigneur. Il est digne. Et en terminant ce message, je vais vous montrer une photo qui est un ami. Les anciens parmi nous le connaissent, ceux d'Haguenau, de la région d'Haguenau. C'est Paul. Paul, c'est un chrétien de l'église d'Haguenau. Il y a quelques années en arrière, une douzaine d'années, avec son épouse Liliane, ils se sont retrouvés en Autriche, ils ont fait du ski, et son épouse Liliane a fait une mauvaise chute. Elle s'est retrouvée hospitalisée, et on a été obligé de lui faire un traitement, et dans ce traitement, il y avait une contre-indication. C'est bel et si bien que Liliane a sombré dans le coma. Ça s'est passé il y a 12 ans, et à l'heure actuelle, Liliane est toujours dans le coma. Et ce que je veux souligner ce matin, c'est la persévérance de Paul. Ça fait 12 ans qu'il vient, jour après jour, visiter son épouse. En ce moment même, tous les jours, il vient voir son épouse, il lui parle, il prie, il lui montre et lui témoigne son amour et sa fidélité. 12 ans que ça dure. Et je ne sais pas combien de temps le Seigneur permettra encore cela, mais quel hommage, quel honneur, quel témoignage de la part de Paul. Vous voyez, il sourit. Et le Seigneur renouvelle sa force. Et cette persévérance a un impact sur sa famille, un impact sur son entourage, un impact sur l'Église. C'est un exemple et c'est un modèle. Alors, nous avons autour de nous des hommes et des femmes qui vivent des choses difficiles et douloureuses, mais en dépit de la douleur et en dépit de la souffrance, ils ne dévient pas de leur trajectoire. Quel exemple, quel modèle, quel témoignage. Voulez-vous que nous prions ensemble, j'invite l'équipe à venir sur l'estrade, et nous allons prendre un temps pour nous approprier ce message, nous approprier la parole de Dieu, et dire au Seigneur, cette année, je voulais grandir dans ma persévérance. Cette année, je voudrais vraiment garder le cap et nourrir ma foi. Comme tu me le suggères, Seigneur, tu es bon pour moi. Alors, oui, Seigneur, cette année, je te demande de m'aider. Et tu vas le faire. Alors, si comme moi, vous êtes concerné, je me sens le premier concerné par la notion de foi persévérante, alors je vous invite à vous lever à votre place, à donner votre vie au Seigneur tout à nouveau, à lui confier votre parcours. Et dire oui, avec moi, Seigneur, j'ai besoin de persévérance. Je m'approche de toi. Tu es la source de ma persévérance. Tu es la source de ma foi. Et tu es la source à laquelle je peux venir pour m'abreuver. On va le faire en chantant ce chant. Je m'abreuve et je crois.